religions du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au sommaire, ce dimanche, la paternité dans les trois religions monothéistes. Isabelle Lévy nous rappellera, avec son dernier essai, ce qu'est être père dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Être parent, c'est bien sûr protéger, et nous entendrons Amaury Guilhem, père de famille nombreuse, directeur de la radio chrétienne RCF Aix-Marseille, qui signe le livre « Protégeons nos enfants de la pornographie ». Et nous refermerons notre émission avec une page d'histoire, « La résistance du pape Pie VII à Napoléon », racontée par Bernard Lecomte. Napoléon dont la France a commémoré cette année 2021 le bicentenaire de sa mort. Ils s'appellent Benjamin, Pierre, Jean, Boris, Redouane, ils sont juifs, catholiques, protestants, orthodoxes, musulmans, ils sont pratiquants, ils ont des enfants. Isabelle Lévy les a interrogés, comme elle a demandé à des rabbins, à des prêtres et des imams, ce qu'était d'être père dans leur religion respective. C'est devenu un livre, Être père dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, et c'est publié aux éditions Nouvelle Cité. Isabelle Lévy, bonjour.
Bonjour.
On vous connaît. À partir de votre métier de formatrice, du personnel médical aux diverses pratiques religieuses dans les trois monothéismes, pourquoi vous êtes-vous lancée dans cette grande enquête sur la paternité dans les trois monothéismes?
Parce qu'on parle toujours de la maternité, mais jamais de la paternité. Et encore moins de la paternité vue par les religions et par les croyants. D'où l'importance d'écrire ce livre pour que les pères, les mères aussi, puissent y retrouver éventuellement des réponses, ce qu'en disent les textes sacrés de cette paternité, et surtout comment vivent cette paternité, ces papas attachés à une pratique religieuse dans leur quotidien, lorsqu'ils veulent transmettre cette religion à leurs enfants, donc par des rituels, mais aussi par un comportement, une manière de vivre, un attachement à la nature et à leur entourage.
Alors vous avez rencontré, vous êtes allé au-devant des pères, oui, dans les trois grandes religions monothéistes, mais aussi avec, vous avez rencontré des religieux.
Voilà, c'est-à-dire qu'il était important de donner la parole à des représentants des cultes, donc du judaïsme, du christianisme et de l'islam, donc bien sûr pour le christianisme, les catholiques, les protestants, les orthodoxes, pour savoir un peu ce que disaient les textes et ce qu'on pouvait en retenir aujourd'hui, donc de la paternité. Parce qu'on a toujours l'impression que la mère est mise en avant et que le père n'a aucun rôle à jouer, ce qui est absolument faux. Mais en même temps, on voulait entendre la parole des pères et non pas des parents, la parole des pères sur justement comment ils vivaient leur foi à travers leur paternité, comment ils vivaient leur transmission de leurs croyances et de leur foi et de leur pratique vis-à-vis de leurs enfants, voire de leurs petits-enfants.
Alors, ça commence pas très bien quand même, Isabelle Lévy, parce que Abraham, c'est le père absent.
C'est le père absent, mais en même temps, bon, il avait d'autres choses à faire, bien plus importantes, à bâtir une nation. Oui. Mais en même temps, c'est vrai que c'est le père de tous les croyants. Et néanmoins, il a voulu être père, et il l'a été deux fois. Et donc, il est important en même temps d'en parler, de parler justement des patriarches, comment ils ont vécu les uns et les autres avec leur paternité, du moins ce que nous en savons. Il y a quand même tout un texte sur Joseph, là aussi, Joseph, père, oui, adoptif de Jésus. Et il est important de dire aussi que Mahomet a manqué de père, hein, parce que son père a disparu avant même sa naissance, et que c'est son grand-père maternel qu'il a élevé dans les premières années, puis son oncle maternel. Donc, il est important de dire un petit peu que tout le monde peut être père, même s'il n'est pas géniteur.
Alors, cette phrase, hein, au début du livre, dans l'introduction, Isabelle Lévy, la phrase du pape François, hein, oui, on ne naît pas père, on le devient. On le devient et on ne le devient pas seulement parce que l'on met au monde un enfant, mais parce qu'on prend soin de lui de manière responsable.
Voilà, et c'est ce qui est un petit peu prouvé dans toutes les religions, c'est qu'il y a eu des pères, bon, connus et moins connus, évidemment, et aujourd'hui encore, où vous avez des pères qui, justement, adoptent volontiers les enfants d'un premier mariage, par exemple, ou qui adoptent parce qu'ils sont leur femme ou eux-mêmes sont stériles, et donc prennent en charge ces enfants comme les leurs. Et ça, dans le genre, c'est, en fait, ils ne voient même plus des fois la différence. D'ailleurs, il y a une petite anecdote dans l'ouvrage où on demande un petit peu les...
C'est lors d'un entretien,
ouais,
c'est
voilà,
ça.
Voilà, lors d'un entretien avec un médecin où on interroge le père et la mère sur leurs antécédents médicaux. Et en fait, c'est quand ils sortent du cabinet qu'ils disent « Mais en fait, ça n'a aucun intérêt, ce que nous on lui a dit, parce que notre enfant n'est pas notre enfant. »
biologique.
Ouais. Et donc, il est adopté. Donc, peu importe nos antécédents médicaux, notre fille ne peut pas avoir nos antécédents médicaux puisque nous l'avons adopté. Donc, pour dire qu'ils l'ont complètement oublié. Donc, à la fin, c'est vrai que pour beaucoup, ils ne voient même pas la différence entre les enfants du premier ou deuxième lit, etc. C'est leurs enfants. Et je crois que c'est le plus important à retenir.
Absolument. Alors, sur le caractère sacré de la maternité, il y a Sarah, Marie, etc., qui sont glorifiées dans le Coran, mais c'est vrai qu'on ne trouve pas tant de figures sacrées dans les textes de pères.
Non.
Pourquoi?
Ben, souvent parce que les enfants, en tout cas à ces époques-là, étaient confiés 100% à la mère.
À la mère, oui.
Que le père était soit à la guerre, soit à la recherche de subsides pour survivre, etc. Et donc ne s'occupait pas des enfants dans les premières années. Les premières années, déjà, on ne cherchait pas trop à s'y attacher à ces enfants parce que malheureusement, beaucoup disparaissaient. Il y avait beaucoup de mortalité infantile à l'époque. Et donc, c'est les mères qui se chargeaient de tous les soins aux enfants et que les pères prenaient un peu le relais lorsque l'enfant commençait à être un petit peu indépendant, on va dire physiquement, qui commençait à parler, marcher, etc., qu'il devenait un petit homme ou une petite femme. Et encore, parfois même, les filles étaient élevées strictement par les femmes.
Oui,
et
puis il y avait l'allaitement.
Et il y avait l'allaitement.
En islam, par exemple, l'allaitement...
Dure deux ans. Dans le judaïsme aussi, dans le christianisme, c'était noté. Bon, ça a été oublié depuis. Mais dans les textes, c'est 2 ans. Absolument.
Alors, les personnes que vous avez rencontrées, ces pères que vous avez rencontrés, Isabelle Lévy, ce sont des pères mariés. Hein, ce sont des pères, j'allais dire, des pratiquants assez... Traduit, au sens...
en tout cas très traditionnel. Oui, et en effet, tous étaient mariés, pour certains remariés religieusement, puisque...
Dans le protestantisme, par exemple,
ou le judaïsme ou l'islam, c'est autorisé. Et donc, il est vrai que ce sont donc des pères qui ont recherché la bonne compagne, qui serait donc aussi la mère de leurs enfants. Il était important pour eux de ne pas simplement convoler en os uniquement avec une femme qu'ils trouvaient belle, belle et jolie. Il fallait qu'elle soit belle, jolie, selon leurs propres critères, et surtout avec laquelle ils avaient envie de fonder une famille.
Un projet de vie, en fait.
Un véritable projet de vie. Et c'est vraiment notifié plusieurs fois dans les propos des pères, dans le genre, on ne bâtit pas un projet de vie avec simplement un coup de cœur. Il faut vraiment que ça soit fondé sur de bonnes bases, où on ait vraiment de points communs. Et ils disent souvent aussi l'épouse qu'ils ont choisie, c'est aussi une femme qui partageait totalement leur foi.
C'est ça. On voit qu'il y a une stabilité dans ces couples.
Voilà, il y a une véritable stabilité, c'est-à-dire que même quand il y a des échanges à avoir par rapport à l'éducation des enfants, par exemple, ou un enfant qui pose question à l'adolescence, par exemple, eh bien, il y a échange entre le père et la mère. C'est pas le père ou la mère qui décide de tout. C'est ensemble, on discute et on décide. Il y a même des conseils de famille avec les enfants. C'est vraiment, il y a un échange au sein même de la famille. Et c'est, attention, parce que c'est des familles qui, bien sûr, vont prier, vont étudier les textes sacrés, mais vont aussi jouer au foot et dans les centres de loisirs connus. Hein. Donc, c'est aussi des vraies familles qui vivent ensemble et qui partagent aussi des loisirs en commun.
On parlait du mariage il y a quelques instants, Isabelle Lévy. Il y a effectivement des mariages non féconds, des personnes qui ne désirent pas avoir d'enfants. Et là, les textes religieux sont assez clairs là-dessus. Pour le judaïsme, c'est inconcevable d'être marié et de ne pas désirer d'enfants. Dans l'orthodoxie, c'est la même chose. Il n'y a que dans le protestantisme, finalement, où...
Oui, on dit que ça reste un choix.
C'est un choix.
C'est un choix.
Ça, c'est l'esprit de liberté du protestantisme.
Oui, c'est le libre arbitre que l'on retrouve toujours dans le protestantisme. Mais il est vrai que dans majeure partie des couples rencontrés, ils sont tous heureux d'avoir des enfants. Et pour eux, le mariage était l'étape qui devait précéder le fait d'avoir des enfants et de fonder une famille. Donc, véritablement, c'est rare d'avoir des couples en âge de procréer qui refusent d'avoir des enfants. J'ai plutôt rencontré des couples qui ont eu des difficultés pour en avoir des fois quelques-uns et des fois et malheureusement des fois ils n'ont pas pu concevoir et donc se sont dirigés vers l'adoption. Mais tous ces couples n'imaginaient pas leur vie sans enfants.
Et le rabbin, d'ailleurs, que vous avez souvent interrogé dans le livre, le rabbin Azoulay, alors pour lui, il est très clair. C'est impensable, effectivement, qu'un couple juif n'ait pas d'enfant.
N'ait pas d'enfant, voilà.
La question de la filiation...
La filiation est importante, parce que sinon...
De la transmission...
Je veux dire, si on se marie, on ne veut pas avoir d'enfant, ou si on vit sans vouloir avoir d'enfant, mais comment continuer à exister dans les générations à venir, que ce soit cette personne-là, ou même l'ensemble de la communauté?
Alors, la question de l'adoption, précisément, est-ce qu'un enfant adopté dans une famille juive devient juif ou pas?
Alors oui, en tout cas, c'est tout, enfin, tout dépend de sa naissance même, mais au-delà de ça, il peut toujours, se convertir. Moi, je connais des couples comme ça qui ont adopté, et l'enfant a été converti au judaïsme après un enseignement, etc. Et bien sûr, cet enfant a été volontaire pour cette conversion. Donc ça ne pose aucun problème. L'ouverture reste possible sur la conversion. Dans l'islam, petite particularité, existe la kefala, où on peut adopter un enfant, mais tout enfant doit naître au sein même d'un mariage. Donc on peut adopter un enfant né dans un mariage. Bon, ce qui est quand même assez rare. Enfin, souvent, c'est plutôt des enfants trouvés, enfin, dont on ne connaît pas la filiation. Et on ne doit pas, normalement, donner le nom de famille du père adoptif à cet enfant pour que cet enfant puisse conserver son nom de famille de naissance, pour qu'il puisse le transmettre à ses enfants au moment voulu. Donc ça, c'est une particularité de l'islam et qui est acceptée dans la loi française. Enfin, c'est court.
L'adoption plénière, voilà, en islam, c'est-à-dire vous portez le nom de vos parents, vous héritez aussi de vos parents, n'existerait en fait qu'en Tunisie, c'est ça ?
Voilà.
Et en Turquie. Et en Tunisie, c'est extraordinaire.
Voilà, parce que même il y a des différences par rapport à l'héritage dans les religions, c'est-à-dire qu'un enfant adopté n'a pas toujours les mêmes droits au niveau héritage. Mais bon, aujourd'hui, vous savez, dans la majorité des pays, c'est le droit des hommes qui prévaut. Et donc, les enfants adoptifs ou non ont exactement les mêmes droits.
Vous écoutez Religion du Monde, notre invitée est Isabelle Lévy pour son livre « Être père dans le judaïsme, le christianisme et l'islam », livre publié aux éditions Nouvelle Cité. Finalement, on ne voit pas de grande différence au niveau de l'autorité paternelle dans les trois religions. Est-ce que c'est une impression finalement ?
C'est pas une impression, c'est exactement la même chose.
C'est pareil.
C'est exactement la même prise en compte de l'autorité. Déjà, on doit respecter ses parents. Ça, c'est une obligation que l'on retrouve chez chacun. Et l'autorité se partage entre le père et la mère. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à souligner. Ce n'est pas le père qui a toute autorité, c'est le père et la mère. Et donc, ils doivent trouver, je dirais, un terrain d'entente lorsqu'ils sont éventuellement en désaccord par rapport à un enfant. Mais l'autorité, en fait, elle est présente, mais c'est pas sous forme d'autorité. C'est-à-dire, autorité, ça veut dire, bon, il donne des ordres, etc. Pas du tout. En fait, on essaye d'expliquer à l'enfant le pourquoi il faut adopter le bon comportement, etc.
Ce qu'on appelle l'autorité bienveillante.
Voilà, bienveillante. Par contre, s'il est vrai que dans le judaïsme existe cette majorité religieuse qui n'existe pas dans les autres religions, à 12 ans pour les filles et à 13 ans pour les garçons, donc le jour de leur bat ou bar mitzvah, mais en fait, ça n'a pas de conséquence sur la vie civile. C'est uniquement au niveau de la religion où l'enfant de 12 et 13 ans sont considérés comme majeurs et donc fils et filles du commandement, c'est-à-dire qu'ils sont maîtres, ils sont responsables de leurs actes et de leurs paroles vis-à-vis de Dieu. Avant, c'était leurs parents qui étaient responsables. Et à partir de 12 et 13 ans, ils n'ont plus d'enseignement à avoir de la part de leurs parents. Ils doivent continuer à apprendre, etc., par eux-mêmes, mais ils sont responsables devant Dieu de leurs actes et de leurs paroles. Mais par contre, dans la vie civile, rien n'a changé. Et les parents le disent bien, à 12 et 13 ans, ils ne sont pas majeurs dans leur esprit. Et on est quand même toujours là pour leur rappeler les bonnes règles de vie, que ce soit à la maison, à l'école ou ailleurs, bien évidemment.
Fille, garçon, à la naissance, il semblerait que ce n'est pas beaucoup de différence. Mais ça, c'est un peu une illusion quand même. Parce que, par exemple, dans le judaïsme, on sent bien que il faut avoir un garçon.
Enfin, c'est la tradition qui veut qu'on ait un garçon. Maintenant, vous avez des couples qui n'ont que des filles, il y a des couples qui n'ont que des garçons. En réalité, dans le judaïsme, il faudrait avoir un garçon et une fille pour pouvoir remplacer son couple et en avoir plus pour pouvoir croître au niveau de la communauté. Maintenant, vous avez des couples qui n'ont que des garçons, d'autres que des filles. Ben, ils ne peuvent pas faire autrement, ben, ils font avec. Ils ne sont pas incriminés du tout. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la circoncision, tous les petits garçons à 8 jours sont circoncis dans le judaïsme, et que pour les filles, il existe un rituel qui s'appelle la nomination de la petite fille, qui doit se faire quelques jours après la naissance, le lundi, jeudi ou le samedi qui suit sa naissance, pour la nomination dans une synagogue où on invite toute la famille, où elle est nommée, prénommée officiellement, et surtout que toutes les matriarches sont rappelées autour du berceau pour la bénir. Ben, ce rituel est très peu exercé, enfin était très peu exercé en France il y a encore quelques années, parce que beaucoup de familles disaient « ça sert à rien, ça c'est pas utile, c'est une fille ». Moi, dans ma famille, ça se faisait et depuis toujours, quoi. Et aujourd'hui, peut-être parce qu'il y a beaucoup de paroles du féminisme qui apparaît dans notre société française.
Et qu'il y a des femmes rabbins aussi, maintenant.
Voilà, mais judaïsme libéral, hein, pas traditionnel. Et les rabbins me disaient, en fait, on voit de plus en plus de familles qui viennent avec leurs enfants du sexe féminin et qu'ils veulent ces nominations, qui, au même titre qu'ils désirent les circoncisions pour les petits garçons. Donc, c'est une très bonne chose parce que ça met à égalité, je veux dire, enfant, garçon ou fille, bien, il y a un rituel à faire à la naissance. Alors que dans le christianisme, c'est vrai que cette différence n'existe pas, puisque la présentation des enfants, par exemple, pour le protestantisme ou le baptême pour toutes les églises chrétiennes, existe pour les garçons et les filles sans aucune différence. En islam, il y a aussi la présentation de l'enfant à la famille, qui existe à 4, 5, 7 jours, 8 jours selon les communautés, où garçon ou fille, on présente l'enfant et on annonce les prénoms aux proches. Et donc, on fait une grande réception avec plein de douceur pour accueillir cet enfant. Bon, bien sûr, seule la circoncision existe pour le petit garçon. Par contre, l'excision, et là, les imams insistent là-dessus, il n'en est absolument pas question dans l'islam, même si c'est pratiqué dans certains pays où l'islam existe. C'est un rituel culturel et non pas religieux, car que ce soit le prophète ou les grands imams, aucun ne prône l'excision pour les filles.
Puisque vous parliez du prophète, vous venez de parler du prophète Isabelle Lévy, il faut rappeler effectivement que le prophète aussi s'était élevé contre ses pères qui étouffaient, qui enterraient vivantes leur fille.
Absolument. Hein? Le prophète Mahomet s'est donc complètement opposé à l'infanticide des petites filles et d'ailleurs a promis à tous les pères qui éduqueraient même une seule fille une place au paradis. Donc, en effet, les pères musulmans, comme les autres, devraient être aussi fiers d'avoir des garçons que des filles.
Le congé paternité, Isabelle Lévy, vous rappelez que depuis le 1er juillet 2021, c'est bien ça ?
Absolument.
Les pères peuvent prendre 28 jours ?
28 jours et une semaine obligatoire. C'est incroyable, mais c'est une semaine obligatoire minimum. Et en Suède, c'est 6 mois. Hein, donc voilà, on ne va pas crier victoire, mais c'est déjà très très bien.
Alors 28 jours, 25 payé par la Sécurité sociale,
voilà,
c'est ça ?
Et 3 par l'employeur. Par l'employeur.
D'accord.
Absolument. Et ce qui est important, en tout cas, c'est justement comment ont vécu ces pères, donc leur précédent congé paternité, qui était beaucoup moins long, évidemment, et certains n'en ont même pas eu. Et bien souvent, ils ont pris des jours sur leurs propres vacances, ou des jours sans solde, ils se sont arrangés avec leur planning, etc., pour être un maximum disponible, pour être auprès de leurs enfants, dès les premières heures. Et ça, c'est très important, parce qu'ils disaient que pour eux, ils avaient leur place. Même si la maman allaitait, même si elle était hospitalisée parce qu'il y avait une césarienne ou quelques complications, ils avaient envie d'être à la clinique ou à l'hôpital pour être là, pour les prendre dans les bras, pour le consoler, pour apporter peut-être même l'enfant à la mère pour qu'elle l'allaite. Et ils estimaient qu'ils avaient justement leur place à prendre. Parce que la mère, elle avait de l'avance, elle avait 9 mois. 9 mois pour sentir cet enfant vivre dans son ventre. Eux, non. Même si ils sont à côté, ils voient ce ventre grandir, ils disent « dans un sens, nous, on vient réellement papa le jour de notre naissance. On n'a pas ce temps d'adaptation. » Et donc, ils ont l'impression qu'il faut qu'ils rattrapent un peu de temps sur la mère. Et donc, ils veulent prendre leur temps. Et donc, même s'ils sont, pour certains, fatigués, même s'ils tirent à Shifumi, éventuellement, pour savoir qui se lève le soir pour donner le biberon ou faire le change, ce qui m'a fait un peu rire, ils sont tous là. Ils sont tous là, que ce soit des médecins, que ce soit des directeurs d'entreprise, des employés, etc. Ils sont, et puis, des fois, c'est des papas qui ont plusieurs enfants aussi, hein, faut bien le dire. Donc, ils font aussi tourner le reste de la maison, hein, c'est bien nécessaire, pendant que la maman parfois se repose ou justement prend habitude avec le nouveau-né. Ils sont quand même présents aussi bien à la lessive qu'à la cuisine, qu'aux courses, qu'aux devoirs, etc.
Et à l'accouchement.
Alors, c'est vrai que les ultra-religieux, par exemple, disent « c'est pas notre place, on est dehors, on prie, etc. » Il y a des personnes qui disent on a même oublié de faire des bénédictions tellement on est complètement
envahi par
l'émotion, l'événement, etc. Mais c'est pas bien grave en réalité. Mais beaucoup de papas ont voulu vraiment être présent au moment de l'accouchement. Et certains regrettent qu'on ne leur a pas laissé dans leur temps, parce qu'ils sont pour certains aujourd'hui grands-pères. Ils disent, oui, ben pour mes enfants, en fait, je n'ai pas pu être là parce que c'était interdit, c'était impensable. Et ils pensent être passés à côté de quelque chose d'important au niveau de l'émotion et de la joie.
Il y a un joli chapitre qui s'intitule, dans votre livre, Isabelle Lévy, Osez dire je t'aime.
Eh oui.
C'est Hakim hein, qui dit ça. Oui. Voilà, j'ose dire à mes enfants je t'aime, voilà. Ce que lui n'a pas vécu.
N'a pas vécu. Alors d'autres papas le disent aussi très très bien. Et en effet, ils disent que les pères de la nouvelle génération osent jouer avec leurs enfants, mais osent surtout dire je t'aime à leurs enfants. Et parce que ces pères reconnaissent que c'est un manque qu'ils ont. Leurs pères ont été extrêmement présents pour la majorité d'entre eux. Ils n'ont manqué de rien, etc. Mais peut-être de quelques paroles d'amour. Même si tous les gestes de ces papas étaient bien sûr de combler leurs enfants d'amour, il n'y avait pas les mots. Et eux ne s'en privent pas et le disent. Et les pères qu'ils pourront encore le dire, même lorsque leurs enfants seront très très grands. Parce que pour eux, c'est important de dire, de partager cet amour, parce qu'ils pensent que si les mots sont là, ben les enfants n'hésiteront pas à se tourner vers leur père, justement pour leur raconter leurs histoires d'enfants, d'adolescents, voire d'adultes, et pouvoir partager leur joie et éventuellement leur misère.
Dernière question, Isabelle Lévy, est-ce que c'est le père idéal que vous décrivez dans ce livre, voire le père idéalisé, parce qu'il y a aussi pas mal de pères absents, avec les séparations notamment.
Oui. En tout cas, on peut dire qu'être père croyant, ben c'est un petit plus. Ça donne un petit supplément d'âme à la paternité. Ça donne un support, les textes sacrés, les rituels, etc. Ça donne un support pour devenir parent. Et donc, même beaucoup de papas disaient, ben, je ne vais pas vers des psychologues, etc., chercher des réponses. Je ne vais pas non plus vers des religieux, chercher des réponses quand j'ai des soucis avec mes enfants, mais vis-à-vis des fidèles de ma communauté. Et donc, ces papas m'aident à mieux prendre en charge mes enfants, etc. Donc, en fait, j'ai rencontré en tout cas des pères heureux.
Merci Isabelle Lévy. Donc, être père dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'est donc le titre de votre livre publié aux éditions Nouvelle Cité. Merci.
Merci à vous.
La pornographie n'est pas tant un problème parce que c'est mal, mais parce que ça fait mal à la fois pour ceux qui en sont les acteurs et ceux qui la regardent, à commencer par les enfants. C'est ce qu'expliquent Amaury Guilhem et Tanguy Laforgue dans leur livre « Protégeons nos enfants de la pornographie » publié chez MAM. Tanguy Laforgue, ancien officier, est aujourd'hui psychopraticien spécialisé dans l'accompagnement de l'addiction à la pornographie. Et Amaury Guilhem est directeur de la radio chrétienne RCF Aix-Marseille. C'est là que nous l'avons rencontré pour qu'il nous parle de ce livre.
L'idée de ce livre, c'était, on avait envie de secouer un peu le cocotier de deux façons. Déjà, de rappeler aux parents que quand bien même leur petit chéri, j'utilise cette expression à propos, parce que oui, chez les autres, mais mon petit chéri, non. En fait, votre petit chéri, oui. Votre petit chéri, c'est pas parce qu'il va au caté, à l'aumônerie, au scout ou qu'il est dans un collège privé qu'il est préservé de la pornographie. Aujourd'hui, avec les smartphones, avec la 4G, tous ces contenus-là sont accessibles partout, en grande quantité, avec énormément de violence dedans. Il n'y a plus la barrière du « j'ai 18 ans » ou « j'ai pas 18 ans ». En tout cas, il y est de moins en moins. Donc, votre enfant est exposé, quelles que soient les familles ou le contexte éducatif ou social dans lequel il évolue. Ça, c'était le premier sujet. Et puis, le deuxième, c'était aussi de dire, souvent, on entend que la pornographie, c'est vrai que ça peut être dangereux pour les enfants, comme si ça ne l'était pas pour les adultes. Et c'est un peu aussi l'autre propos du livre, c'est de dire aussi, oui, la pornographie peut être dangereuse aussi pour des adultes, pour des vies de couple. Il y a des personnes qui témoignent dans le livre combien une addiction à la pornographie a fait exploser leur couple et qui essayent de se reconstruire petit à petit. Donc, le discours qui consiste à dire, protégeons les enfants du porno, mais les adultes, en fait, pourquoi pas, finalement, il n'y a pas de mal à se faire du bien. En fait, s'il y a des personnes pour qui, même adulte, même majeur, etc., la pornographie peut être un problème. Et ça, on ne l'entend pas forcément beaucoup.
Alors, Amaury Guilhem, des chiffres hein, dans le livre. Un site de pornographie, c'est Pornhub, En 2019, 42 milliards de visites. En 2019, et on sait qu'avec la pandémie du Covid, la consommation pornographique a augmenté.
Oui, ça augmente en quantité. Effectivement, on donne pas mal de chiffres dans le livre et c'est une croissance exponentielle. Et en fait, ça augmente, j'allais dire, en quantité et en qualité. Pas en qualité, justement, en absence de qualité. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de surenchère aussi dans les contenus qui sont proposés. Surenchère de violence, de proposition hard, trash, parce que en fait, avec Internet aujourd'hui et l'ultra consommation à travers la 4G, etc., et les smartphones, en fait, l'industrie pornographique a plus de mal à vendre ses contenus puisque beaucoup de contenus existent gratuitement, et donc pour attirer le chaland, pour vendre, il faut faire plus trash, et donc l'industrie pornographique fait plus trash. Ces propositions là sont aussitôt récupérées par le porno, ce qu'ils appellent le porno amateur, qui est mis à disposition gratuitement sur le web. Et donc on voit cette espèce de cercle vicieux, c'est le cas de le dire, où il y a une surenchère dans la violence et qui, donc voilà, il y a effectivement une augmentation dans la quantité de pornographie consommée dans le monde entier et qui s'accompagne aussi d'une augmentation de la violence qui sont malheureusement en plus à disposition de tous les enfants.
Un tiers des 18-24 ans ont consommé de la pornographie ou consomment de la pornographie.
Mmh. Oui, et pour les 18-24 ans, j'ai plus exactement tous les chiffres en tête au moment où je vous réponds. Ce que je sais, par exemple, un chiffre que moi-même j'ai découvert, c'est qu'aujourd'hui, on dit que l'âge moyen de consultation d'un premier contenu pornographique pour un enfant, c'est 11 ans. Ce qui est quand même extrêmement bas. Il y a encore quelques années, c'était 14 ans. Aujourd'hui, c'est 11 ans. Et donc, quand on a interviewé dans le livre des directeurs d'établissements scolaires, directeurs et directrices d'établissements scolaires, qui nous disent que ces sujets-là, aujourd'hui, arrivent dans les cours de récréation en CM1 ou en CM2. Donc, c'est cet âge-là. Ça ne veut pas dire que tous les enfants de cet âge-là y sont confrontés, mais n'empêche que c'est le moment, en fait, c'est souvent au moment où les enfants commencent à avoir un téléphone, en fait. Alors, on parle beaucoup d'harcèlement scolaire, via les réseaux sociaux, les réseaux WhatsApp, sur TikTok, les boucles sur Snapchat, etc. Tout ça sont autant d'outils qui sont malheureusement utilisés pour du harcèlement scolaire, mais qui sont aussi des outils sur lesquels peuvent venir soit se greffer des contenus pornographiques, soit qui font simplement circuler des conversations entre des enfants à caractère directement pornographique. Très souvent, malheureusement, les victimes sont quand même les jeunes filles de la part de garçons plutôt malveillants. Et
oui, par exemple, le cas de jeunes filles qui vont poser nues sur l'injonction de leur petite amie.
Oui,
et ça, des âges assez jeunes.
Oui, en fait, de plus en plus jeunes, souvent parce qu'elles n'ont pas envie de passer pour des prudes ou qu'elles n'ont pas envie de décevoir, ou que, en tout cas, par exemple, au collège, quand on commence à parler de relations amoureuses, eh bien, si elles sont vraiment attachées à leur copain, qu'elles n'ont pas envie de le perdre quelque part. Souvent, dans les témoignages que nous avons récoltés, les garçons disent qu'ils essayent de faire un peu comme dans les films qu'ils voient, comme si c'était un critère pour juger ses capacités sexuelles, si on est capable de refaire ce qu'on voit, alors ça veut dire qu'on est un bon coup, pardonnez l'expression. Et du côté des filles, il y aurait a priori moins d'attirance pour les gestes en eux-mêmes, mais plus la crainte de perdre une amitié, de perdre une relation, et du coup de se soumettre à des postures ou des pratiques auxquelles il ne faudrait pas qu'elles se soumettent. Donc c'est ça aussi un peu le signal d'alarme qu'on a envie de tirer. Voilà, les garçons ou les filles sont concernés par ce sujet aujourd'hui.
La pornographie peut devenir la norme, en fait, pour eux, la norme sexuelle, c'est ça?
Alors, il y a des, puis pareil, des pédopsychiatres aussi qui témoignent dans le livre et qui disent qu'en fait, ça devient, malheureusement, pour beaucoup d'enfants, la pornographie peut devenir le support d'éducation sexuelle. Donc, l'enjeu est pour les parents, pour les structures d'enseignement aussi, l'éducation nationale, les structures qui accompagnent les enfants, eh bien, de parler de ces sujets-là, de parler du corps, de parler de la beauté de la relation sexuelle, de parler du sens de cette relation-là, etc., pour que les enfants entendent parler de ça avant d'être confrontés à des contenus qui pourraient leur laisser croire, s'ils n'ont été entourés d'aucun adulte qui, en amont de cette consommation de pornographie ou le fait de tomber sur une image parfois par hasard, a pu susciter beaucoup de questions et être perturbant, eh bien, ces enfants, il faut qu'ils trouvent des adultes qui leur en parlent, en fait, de sexualité, d'éducation sexuelle, pour que, justement, la pornographie ne devienne pas la norme ou le critère d'évaluation pour eux.
Alors, question aux catholiques que vous êtes, Amaury Guilhem. directeur de RCF, Marseille-Aix, l'accompagnement spirituel, vous estimez que ça peut avoir un rôle ?
Alors oui et non. En fait, il serait aujourd'hui, et puis en plus, vu l'actualité du moment, bien présomptueux de dire « si j'ai une vie spirituelle, que je vais à la messe, que je me confesse, que je communie, je suis à l'abri de tout ça ». On sait bien que ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà, quand on est dans une situation d'addiction à la pornographie, eh bien, ça peut demander d'être un accompagnement psychologique, parce que c'est une situation d'addiction, en fait. Même si ce n'est pas reconnu comme une maladie, comme d'autres addictions, eh bien, c'est le cas. Et donc, ça demande un vrai accompagnement par des professionnels. Tanguy Laforgue, avec qui j'ai écrit le livre « En éteint », il est à Aix-en-Provence. Après, si les personnes ont une vie spirituelle, cette vie spirituelle peut être une ressource sur laquelle on peut s'appuyer pour croire que par-dessus nos casseroles, par-dessus nos chutes, par-dessus tout ce qu'on a fait et qu'on aurait aimé pas faire, il y a quelqu'un qui veille sur nous, qui tient à nous, qui nous dit, et je reprends cette phrase de l'évangile, tu as dit prix à mes yeux et je t'aime. Dans l'évangile, Jésus dit pas tu as dit prix à mes yeux et je t'aime si tu fais ci, ça, ça. En fait, il n'y a pas de condition. Donc voilà, moi comme chrétien, je crois que l'amour de Dieu est effectivement inconditionnel pour chaque homme, chaque femme. Et le fait de croire ça, quand moi aussi il m'arrive de tomber, me donne une immense espérance et me fait dire que je continue d'être aimé, même si. Donc je crois que c'est en ça que la vie spirituelle, si elle ne résout pas tout, peut être une ressource pour les personnes qui sont dans une situation d'addiction à la pornographie.
Puis votre livre, Amaury Guilhem, c'est aussi l'éloge de l'amour conjugal, hein, tout court.
Oui, parce qu'effectivement, on voit combien aussi des couples... Moi, j'ai été frappé en faisant les interviews pour ce livre d'entendre des témoignages de couples qui ont été brisés à cause d'une addiction de l'un ou l'autre à la pornographie. Parce qu'en fait, quelque part, c'est surtout des messieurs qui en témoignent, la sexualité peut en devenir vraiment blessée et blessante. Et dans le couple, on sait combien la sexualité est au cœur de la vie du couple. Et donc, si le lieu qui est censé être le lieu de communion, de l'expression d'un amour qui déborde au point qu'on se donne ainsi l'un à l'autre, devient le lieu où on blesse l'autre dans son intimité, eh bien, effectivement, on comprend que des couples explosent à cause de ça. Donc, prendre soin de soi, se préserver de la pornographie, c'est aussi prendre soin de son couple et c'est prendre soin du couple que nos enfants peut-être fonderont plus tard.
Vous écrivez à Amaury Guilhem qu'aujourd'hui, ça peut paraître ringard hein, d'évoquer cette question de la pornographie. Et vous parlez des années, il y a 30 ans, où parler de la pédophilie, s'attaquer à la pédophilie, c'était ringard. C'est la même chose ?
Oui, bah en fait, c'est ce qu'on s'est dit. En fait, c'est pas grave si on passe pour des ringards. Il y a des gens qui, il y a plusieurs décennies, ont dénoncé la louange qui était faite en disant que finalement, tripoter un enfant, c'était pas mauvais, ça pouvait justement l'aider à éveiller sa sexualité. Heureusement, on en est revenu aujourd'hui et les personnes qui professaient ça ne le professent plus, en tout cas, je l'espère. Eh bien, pour la pornographie, il y a peut-être des gens qui aujourd'hui continuent de dire que c'est pas trop grave. Eh bien, rendez-vous dans 20 ans ou 30 ans et je pense qu'on sera nombreux à dire que c'est grave. Et du coup, le signal d'alarme, il faut le tirer maintenant.
Amaury Guilhem qui signe avec Tanguy Laforgue « Protégeons nos enfants de la pornographie » aux éditions MAM. Et nous refermons notre émission avec une page d'histoire. Le 5 mai 1821, Napoléon s'éteignait sur l'île de Sainte-Hélène. À l'occasion du bicentenaire de la mort de l'empereur, les éditions Glénat et les éditions du Cerf, dans la collection de bandes dessinées Un pape dans l'histoire, publient Picette, résister à Napoléon, qui raconte l'histoire houleuse, l'histoire d'une opposition frontale entre les deux hommes. Bernard Lecomte, journaliste, spécialiste d'histoire religieuse et politique, spécialiste de la papauté, est le conseiller éditorial de cette collection dont on relève au premier coup d'œil la qualité artistique grâce au dessinateur et coloriste Thomas Verguet et puis aussi la qualité du scénario de Philippe Thirault. Avec nous en ligne, Bernard Lecomte du studio de France Bleu Auxerre. Bernard Lecomte, bonjour.
Bonjour Geneviève.
Alors déjà, cette couverture magnifique, on voit Napoléon
de dos à Rome, on peut le supposer que c'est Rome, à Saint-Pierre de Rome.
Alors, on ne peut pas supposer. C'est effectivement le tombeau de Saint-Pierre qui est là devant cet empereur qu'on voit de dos. Alors, soyons clairs, cette scène n'a jamais existé.
Bien sûr.
Napoléon n'est jamais allé se recueillir devant la confession de Saint-Pierre et les colonnades du Bernin qu'on voit sur la couverture. Mais je suis d'accord avec vous, cette couverture, elle est formidable. Le dessinateur qui a imaginé ça a résumé d'un seul coup 20 ans d'histoire de France, et pas des plus simples, avec cet empereur-là, les mains dans le dos, qui regarde la confession de Saint-Pierre, et donc il est au cœur de la chrétienté, et on a l'impression qu'il se dit « comment est-ce que je vais mater ces gens-là ?» Voilà.
Absolument, tout est dit dans cette magnifique couverture. Alors, Bernard Lecomte, qui est Picette, ce pape qui était un moine à l'origine, donc ce pape qui va tenir tête à l'empereur alors que toutes les cours européennes tremblent devant l'empereur.
Oui, c'est un moine. Alors, c'est vrai qu'il y a eu d'autres papes moines, mais pas tant que ça. Il s'appelait Frère Grégoire. Et c'est un Italien. Il est né en Émilie. Et c'est un type très bien qui va avoir une vie assez complète. Et puis, cette expérience monastique va le durcir. Ça n'est pas rien de le dire parce qu'il va lui arriver des choses absolument épouvantables. Et c'est un peu dans cette enfance ou cette adolescence monastique qu'il va trouver la force de surmonter les épreuves. La toute première épreuve, évidemment, c'est... alors là, elle est relativement calme, mais historiquement, elle est quand même extraordinaire. C'est son élection.
Au terme d'un conclave interminable, en 1800.
Interminable, et surtout qui réussit de justesse. Parce que ce conclave, contrairement aux autres, a lieu à Venise. Pourquoi à Venise ? Parce que tout simplement, Rome n'est plus dans Rome. Le pape précédent, qui est Pie VI, a été emmené par les soldats du directoire de la Révolution française. Donc, il a été emmené dans des conditions épouvantables, traverser les Alpes, etc. Et il est mort dans la forteresse de Valence, dans la Drôme, au mois d'août 1799. Et c'est un moment terrible pour la religion catholique et pour la papauté, parce que quand le pape meurt comme ça, il est enterré civilement. Le citoyen Bracchi, comme dit l'officier de police de Valence, et tout le monde se dit, ben voilà, c'est fini, l'Église catholique, c'est terminé, il n'y a plus de papauté, le pape est mort, à Rome, il n'y a plus rien, il n'y a plus un seul cardinal, et donc c'est terminé. Et il va falloir toute l'habileté et l'intelligence d'une poignée de cardinaux qui vont se réunir donc à Venise. Pourquoi à Venise ? Parce que Venise est sous la protection d'un prince catholique, l'empereur d'Autriche. Et c'est là qu'ils vont effectivement mettre 3 mois très compliqués à désigner le successeur de Pie VI, qui va être ce frère Grégoire, qui en réalité n'était pas tout à fait attendu, mais ça c'est souvent hein, comme ça. Les conclaves très souvent donnent lieu à des surprises. Cette surprise-là, elle donne donc ce frère Grégoire, qui s'appelle Chiaramonti, et qui est poussé par un jeune type dont on reparlera, qui s'appelle Consalvi, Ercole Consalvi, qui va devenir un des plus grands diplomates du XIXe siècle. Et Consalvi, c'est lui qui est le secrétaire du conclave. En réalité, il est secrétaire parce qu'il n'y en a pas d'autres, il est choisi en vitesse, comme ça. Et c'est lui qui va finir par faire élire Chiaramonti, qui va tout de suite choisir le nom de Picette, en hommage, évidemment, aux souffrances de son prédécesseur Pie VI.
Alors, Bernard Lecomte, on en est où en France à ce moment-là ? Napoléon a pris le pouvoir l'année précédente. Je parle donc du conclave, donc le 14 mars 1800, hein, donc, qui élit Picette. Alors, on en est où en France ?
En France, Napoléon a pris le pouvoir. Napoléon est devenu premier consul et il rêve déjà de devenir empereur. Le premier consul, il a une idée fondamentale, qui dépasse probablement sur le plan politique toutes les autres. Il sait, Napoléon, parce qu'il a vécu tous les événements de la Révolution française, il sait qu'il ne réunira la nation française que s'il redonne à la religion sa place. C'est le casus belli le plus terrible entre la Révolution et les chrétiens. Napoléon a compris ça. Donc il va prendre la décision, en 1800, d'annoncer que la religion va revenir, ce qui évidemment, vous pensez, fait un sacré plaisir à tous les cardinaux et au pape en personne. Mais évidemment, c'est Napoléon, le premier consul, futur empereur, c'est pas un personnage facile. Donc il décrète des lois organiques, enfin un concordat comme on dit, mais ce concordat, il est fait par lui, à sa façon,
pour lui.
Et le pape, pour lui, et le pape est prié de signer, ce qui ne se fait pas sans un bras de fer étonnant, déjà avec le fameux Ercole Consalvi dont je vous parlais, et Consalvi va être justement le négociateur du pape dans cette affaire, qui va se terminer par, au fond, oui, le concordat est voté, est accepté, mais Napoléon va adopter d'autres lois organiques dans le dos du pape, qui corrigent tout ce qui n'allait pas et qui abolit le moindre privilège du pape dans cette affaire.
Et finalement, Pie VII va désavouer ce concordat.
Il le désavoue sans le désavouer, parce que Pie VII est quand même content d'une chose, tout le monde, il faut bien mettre les choses en perspective. Le fait que Napoléon rétablisse la religion catholique en France, c'est un événement colossal, et notamment évidemment pour 80% des Français. Tous ne sont pas forcément des catholiques pratiquants, mais pas loin à cette époque. Et donc c'est le plus important de tout. Et le pape, au fond, est prêt à fermer les yeux sur un certain nombre de choses du moment que la religion catholique est rétablie.
Alors, Bernard Lecomte, il y a ce tableau de David sur le couronnement donc de Napoléon à Notre-Dame, avec derrière le pape Pie VII totalement passif. Ça dit tout, cette scène, ce tableau.
Ce tableau de David que tout le monde connaît, qui est gigantesque, on voit effectivement le pape derrière, parmi les invités d'honneur. Mais enfin, le pape, il était là pour sacrer l'empereur. Napoléon lui avait demandé de venir, lui avait ordonné de venir pour le sacrer. Et quand il arrive, d'abord, l'empereur le fait poireauter pendant une heure et demie à Notre-Dame. Et puis ensuite, il le met dans le fond. Et il se sacre lui-même. On connaît tous cette scène où Napoléon se met lui-même la couronne sur la tête et met la couronne sur la tête de Joséphine, l'impératrice, devant les yeux du pape médisé qui se demande ce qu'il fait là. Donc ça, c'est une humiliation absolument colossale. Mais ça n'est en réalité qu'une humiliation de plus qui prépare des humiliations bien plus grandes encore, et notamment quand, après la bataille d'Austerlitz, en 1806, Napoléon dit au pape, eh ben maintenant vous êtes mon vassal. Il faut rappeler évidemment à nos auditeurs que le pape à l'époque est un chef d'État politique aussi. Il a des états pontificaux, ça n'est pas seulement un chef religieux. Et donc ce chef politique avec un pouvoir temporel, Napoléon veut le mater complètement et lui dit, voilà, vous êtes mon vassal, je suis empereur et vous, vous êtes le vassal de l'empereur. Donc je vais vous demander d'ailleurs, s'il vous plaît, de faire la guerre aux Anglais.
Et ça, il ne veut pas,
évidemment,
bien sûr.
Le pape ne peut pas lui-même faire la guerre aux Anglais. Même si le pape, en effet, est un chef politique, il n'est pas question qu'il aille faire la guerre aux Anglais. Alors là, il y a un bras de fer qui se joue, extrêmement dur, qui va se terminer par l'excommunication de l'empereur. Ce qui est évidemment capital, parce que l'excommunication, à cette époque, c'est beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Un chef d'État, un empereur qui est excommunié, il va avoir du mal à parler avec son peuple. Et donc, c'est très fort. Et en retour, Napoléon va envoyer le pape en prison, c'est-à-dire en 1809. Il l'envoie carrément dans une prison à Savonnet. Il va rester 3 ans en prison, le pape. C'est pas rien.
Et effectivement, il va vivre, en fait, Pie VII va vivre ce que son prédécesseur, Pie VI, a connu, en quelque sorte.
Exactement, il note ça, évidemment, il y a des coïncidences qui sont terribles, notamment quand il passe à Florence, il dort pratiquement dans la même cellule que son prédécesseur. Donc, il est à Savonne pendant 3 ans, et pendant ce temps-là, l'empereur a une idée toute bête, c'est de tout simplement faire en sorte que l'Église catholique ait son siège à Paris, sous son autorité. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et donc, Napoléon invite tous les cardinaux à venir faire allégeance à Paris. Ça marche pas très bien, parce que la moitié des cardinaux dit il n'en est pas question, dont le fameux Consalvi, une fois de plus, qui mène un peu la résistance.
On le retrouve partout.
Et puis, oui, c'est un personnage très important, pas très connu, mais très important. Et Napoléon va finir par aller chercher le pape dans sa prison. En 1812, il l'amène lui-même à Fontainebleau. Et il lui dit, voilà, tout est prêt pour que l'Église s'installe à Paris. On va faire un concile national avec les cardinaux qui voudront bien. Et le pape refuse. Et là encore, ça va très très mal se passer. On est en 1812. J'insiste parce que 1812, vous vous rappelez, Geneviève, c'est la retraite de Russie.
Et oui, c'est le début de la fin.
C'est le début de la fin. Et là, évidemment, le bras de fer entre le pape et l'empereur va tourner petit à petit à l'avantage du pape, qui, lui, est là, il attend, il refuse, il est pas trop mal secondé par quelques cardinaux, et il arrive à repousser toutes les offres de l'empereur, jusqu'à ce que l'empereur, excédé, le renvoie à Rome. Parce que le pape est quand même un personnage très populaire, et quand il se déplace, tout le peuple est là à crier « Vive le pape !» Donc ça, Napoléon, il n'aime pas. Donc il le renvoie à Rome, et dans le même temps, bah, c'est la fin de l'empire de Napoléon, c'est la bataille de Leipzig, c'est les 100 jours, et c'est enfin Waterloo. Quand Waterloo signe la fin de l'épopée napoléonienne, le pape est à Rome, il a repris Consalvi comme secrétaire d'État, et c'est lui, au fond, qui triomphe par défaut de cet incroyable bras de fer qui aura duré presque 20 ans.
Et le pape Pie VII a donc retrouvé ces états pontificaux que les armées napoléoniennes avaient envahis.
Exactement. Et c'est là où on va assister à un moment absolument formidable. En 1815, c'est le congrès de Vienne. C'est un congrès extrêmement important dans l'histoire parce que la plupart des grands empereurs, rois et ducs qui ont été battus par Napoléon, mais qui ont repris l'avantage sur Napoléon, ont bien l'intention de se partager l'Europe où il n'y a plus un seul soldat et pour cause de l'Empire. Donc ces gens-là au congrès de Vienne se disent, avec un grand couteau, on va découper l'Europe. Mais il y a deux personnages qui vont changer le cours de l'histoire. Parce que deux personnages très malins, c'est Talleyrand qui va faire en sorte que la France, qui est complètement battue, il n'y a plus de France, que la France retrouve ses prérogatives. Et Consalvi, une fois de plus, le secrétaire d'État de Pie VII, qui lui va faire en sorte que les États pontificaux retrouvent une existence. Et c'est ces deux diplomates exceptionnels qui vont en effet remettre sur la carte la France et les États pontificaux.
Alors, dernière remarque, c'est quand même la mansuétude de Pie VII, parce que la mère de Napoléon, après l'abdication de son fils, bien, est à Rome, vit à Rome. Elle y vivra d'ailleurs même une bonne dizaine d'années après la mort de son fils. Eh bien, la mère de Napoléon, bon, voilà, est à Rome, pas loin du pape. Et le pape ne la chasse pas de Rome. C'est un beau geste quand même, non ?
Le pape l'accueille. Alors, il faut rappeler que Laetitia n'était pas tout à fait sur la ligne de son fils.
C'est vrai,
Laetitia était
sûr.
Une bonne chrétienne. Mais c'est vrai que Laetitia et une partie de la famille de Napoléon va se réfugier à Rome avec la bénédiction du pape. On en a une trace inattendue, mais assez connue des Romains à Rome. C'est que Pauline, la sœur de l'empereur, va acheter une espèce de résidence, une espèce de petit château qui va s'appeler la Villa Paolina. Et qui est aujourd'hui la Villa Bonaparte. Cette Villa Bonaparte, parce que les Français, l'État français, a acheté cette Villa Bonaparte après la guerre de 40 pour en faire l'ambassade de France auprès du Saint-Siège.
Et c'est un très beau bâtiment. Merci Bernard Lecomte d'être venu raconter l'histoire de Pie VII face à Napoléon. Donc une bande dessinée que l'on peut retrouver dans cette collection Un pape dans l'histoire aux éditions Glénat et Cerf. Merci Bernard Lecomte d'avoir été notre invité et merci à France Bleu Auxerre de vous avoir reçu dans leur studio.
Merci Geneviève.
Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Véronique Durand, Ludivine Amado vous donnent rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.
La marche du monde.